Vous êtes avec SBS French. Les enseignants et les directeurs publics d'écoles publiques de Nouvelle-Galles du Sud se mettent en grève ce mardi pour la première fois en une dizaine d'années. L'action collective vient en réponse à de nouvelles inquiétudes concernant le manque d'enseignants en raison de salaires non compétitifs et de charges de travail insoutenables. Ils demandent une augmentation de salaire de 5 à 7,5% par an, conformément aux recommandations de l'enquête Gallup sur la profession enseignante. Le président de la Fédération des enseignants de Nouvelle-Galles du Sud, Angelo Gavridlatos, a déclaré que le gouvernement de l'État devrait prendre des mesures.
We are heading straight into a perfect storm. We've got a rapidly aging teaching service. We're about to experience a significant growth in student enrollments in New South Wales. And on top of that, there's been a 30% decline in people entering teacher education. The government knows that there's been a decline in teacher salaries relative to other professions, which is making teaching a less attractive option for high-achieving students.
Le Queensland met en œuvre des protections plus strictes pour les travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration alors que l'État enregistre un nouveau cas de COVID-19 acquis localement. L'infection est liée à un cas précédemment confirmé et a été détecté sur la Gold Coast, portant un cluster existant à 4 cas. Cela survient alors que l'État se prépare à rouvrir ses frontières ce 13 décembre et à permettre aux entreprises de fonctionner à pleine capacité le 17 décembre de la semaine prochaine. La ministre de la Santé, Yvette Darf, a déclaré que toute personne qui crache, éternue ou tousse délibérément sur les travailleurs sera condamnée à une amende.
That means if you behave in this way, then you can see an on-the-spot fine of $1,378.50. Or if your offence is such that the police choose to take you to court, it could be a $13,785 fine or up to 6 months imprisonment.
La ville de New York a déclaré que tous les employeurs du secteur privé doivent mettre en œuvre des mandats de vaccins COVID-19 pour leurs travailleurs, car le variant d'Omicron s'est propagé dans au moins un tiers des États américains. La plus grande ville d'Amérique a fixé une date limite du 27 décembre pour les 184 000 entreprises afin que leurs employés prouvent qu'ils ont été vaccinés. Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que la vaccination était le seul moyen de sortir de la pandémie.
It's not something we can't handle. We have the tools, but we have to use those tools aggressively. And we have to move quickly. And that's why I describe the actions we're taking today as a preemptive strike. Get ahead of this problem before it deepens and use the thing that works, vaccination. We can talk about all the other tools, and we will. But vaccination is the central weapon in this war against COVID. It's the one thing that has worked every single time across the board.
Le Nigeria a critiqué la Grande-Bretagne pour avoir imposé une interdiction de voyager après la détection de cas du variant Omicron dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Le ministre nigérien de l'Information, Lai Mohamed, a déclaré que l'interdiction imposée le week-end dernier n'est pas fondée sur la science ou le bon sens.
La décision by the British government to put Nigeria on the red list just because of less than 2,000 cases of Omicron, which by the way did not originate in Nigeria, is unjust, unfair, punitive, indefensible and discriminatory.
L'Australie s'est jointe aux États-Unis pour demander la libération de la dirigeante démocratiquement élue de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, qui a été condamnée à au moins 2 ans de détention. Le ministère australien des Affaires étrangères a qualifié la décision de profondément préoccupante après qu'un tribunal de Birmanie sous contrôle militaire ait condamné Mme Suu Kyi à 4 ans de détention pour incitation et violation des restrictions de COVID-19. La télévision d'État a rapporté plus tard que la peine avait été réduite à 2 ans dans le cadre d'une grâce partielle. Juliette Verlin, Radio France Internationale.
On l'a appris ce matin, Aung San Suu Kyi et le président de la Birmanie, U Win Myint, ont été condamnés pour deux des accusations qui leur sont portées, incitation à la violence et infraction de la loi de protection contre le Covid-19, lors de leur campagne en fin d'année dernière. C'est la première sentence à tomber parmi les 11 accusations dont Aung San Suu Kyi fait l'objet, et après des mois d'un procès qui dure. Si elle était condamnée pour chacune de ces accusations, l'ancienne conseillère d'État finirait sa vie en prison. Elle est actuellement retenue à domicile dans la capitale Naypyidaw, loin des médias et de son peuple, avec qui elle n'a de contact qu'à travers son avocat. Ce dernier n'a d'ailleurs plus le droit de s'exprimer publiquement sur le contenu des audiences, ce qui rend ce procès complètement fermé, très compliqué à suivre pour la population. D'après les activistes birmans, la junte fait durer le procès et multiplie les accusations contre Aung San Suu Kyi dans le but de l'exclure de toute vie politique à l'avenir. Celle qu'on appelle la dame a aujourd'hui 76 ans, et pour les Birmans, il est peu probable qu'elle retrouve un jour la liberté.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a accueilli la lauréate du prix Nobel de la paix et militante pour l'éducation Malala Yousafzai au département d'État de Washington. Au cours de leur réunion bilatérale, les deux personnes prévoient de discuter des problèmes régionaux au Moyen-Orient, en particulier des efforts visant à garantir l'éducation des femmes et des filles en Afghanistan. Madame Yousafzai avait ce message pour le président américain Joe Biden.
But we know that Afghanistan right now is the only country where girls do not have access to secondary education. They are prohibited from learning. And I have been working together with Afghan girls and women's activists, and there is this one message from them that they should be given their right to work, they should be able to go to school. And I have a letter from Satuda, a 15-year-old Afghan girl, and she has written this to President Biden that I will pass on to you to pass it on to President. If girls don't learn, Afghanistan will suffer too.
Les Verts en Allemagne ont approuvé un accord tripartite avec le nouveau gouvernement allemand qui doit prêter serment la semaine prochaine. Le parti écologiste fera partie d'un nouveau gouvernement de coalition dirigé par l'Union des sociaux-démocrates de centre-gauche, le SPD et les libéraux. Olaf Scholz prêtera serment en tant que nouveau dirigeant du pays, remplaçant la chancelière Angela Merkel. Annalena Baerbock, des Verts, qui doit devenir ministre des Affaires étrangères du pays, a souligné l'importance de soutenir le système de santé alors que l'Allemagne affronte sa quatrième vague de Covid-19.
Die oberste Priorität, die jetzt ansteht,
The main priority now is to achieve greater safety nationally through preventative health measures, to do our utmost to address the situation in hospitals, to support care and medical staff, and not least to vaccinate as fast as possible.
Und vor allen Dingen impfen, was das Zeug hält.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu visite aux troupes près de la zone séparatiste dans l'est du pays. Cela survient alors que les tensions montent au sujet d'une concentration de troupes russes près de la frontière des deux pays. Les responsables ukrainiens et occidentaux craignent que la concentration militaire russe n'indique des plans d'invasion, une préoccupation dont le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden devrait discuter par téléphone aujourd'hui. Le gouvernement russe a nié les accusations, affirmant que les préoccupations occidentales font partie des efforts visant à ternir l'image de la Russie. L'attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu'elle ne pouvait pas entrer dans les détails.
I'm not going to get ahead of the president's conversations with his transatlantic partners, but I would say that our objective here is conveying diplomatically that this is the moment for Russia to pull back their military buildup at the border, that diplomacy is the right path forward here, but that we are going to continue to coordinate closely with our partners, our transatlantic partners, on a range of economic sanctions and steps that couldn't be taken should President Putin decide to move forward.
Israël continue de se chercher des alliés afin de lancer une offensive contre l'Iran, déterminé à mettre en échec le programme nucléaire iranien. Reportage de Sami Boukhelifa pour RFI depuis Jérusalem.
Avant une éventuelle offensive armée contre l'Iran, c'est une offensive diplomatique qu'ont lancé les Israéliens. Depuis plusieurs semaines, les responsables de l'État hébreu font la tournée des grandes puissances. Leur but, s'assurer du soutien des pays amis en cas de guerre contre l'Iran. Sans succès pour le moment. Alors, une nouvelle fois, les Israéliens se tournent vers l'allié de toujours, Washington. Israël est certes un poids lourd militaire au Moyen-Orient, mais c'est en grande partie grâce aux États-Unis. Pour mener à bien une offensive armée contre l'Iran, l'État hébreu a besoin de bombardiers et surtout de missiles perforants. Des missiles capables de détruire les imposantes structures en béton armé qui protègent les installations militaires iraniennes. Mais les Américains n'ont toujours pas fourni cet armement aux Israéliens, confie une source diplomatique proche du dossier. Cela explique l'agitation tous azimuts des responsables de l'État hébreu, rajoute cette même source. Le directeur du Mossad est actuellement à Washington. Il y sera rejoint ce jeudi par le ministre de la Défense israélien.
Trois nouveaux membres du groupe de 17 Nord-Américains enlevés mi-octobre en Haïti ont été libérés. 16 Américains et un Canadien avaient été enlevés le 16 octobre dernier après la visite d'un orphelinat. Oriane Verdier, RFI.
Les trois otages en question ont été libérés hier soir selon l'organisation religieuse à laquelle ils appartiennent. Ils sont sains et saufs et semblent avoir le moral, ajoute le communiqué de Christian Aid Ministries. On ne connaît donc ni leur identité, ni la modalité de leur libération. Washington et Ottawa affirment tous deux ne pas payer de rançon lorsqu'un de leurs citoyens est kidnappé. Au total, 16 Américains et un Canadien avaient été enlevés le 16 octobre dernier. Ils étaient partis visiter un orphelinat au cœur d'une zone sous l'emprise de l'un des principaux gangs d'Haïti. Parmi les otages figurent 5 enfants âgés de 8 mois à 15 ans. Les membres du gang 400 Mawozo, responsables de l'enlèvement, avaient réclamé 1 million de dollars par personne. Dans une vidéo diffusée fin octobre, le chef de cette bande armée avait menacé d'exécuter les otages si les rançons ne leur étaient pas versées. 12 personnes sont donc toujours captives. Les enlèvements de masse sont devenus monnaie courante en Haïti. Plus de 800 enlèvements contre rançon auraient été recensés dans le pays depuis le début de l'année.
En Australie à nouveau, de nouvelles données révèlent que les gens se sentent plus seuls pendant cette saison festive qu'ils ne l'étaient l'année dernière. Une enquête de la Croix-Rouge australienne a révélé qu'une personne sur trois est moins enthousiaste pour la saison des fêtes que les années précédentes et 61% craignent que la famille et les amis vulnérables ne se sentent seuls si les restrictions de voyage restent en vigueur. La directrice de la Croix-Rouge, Penny Harrison, a déclaré que ces sentiments étaient très probablement dus à une perturbation des modes de vie normaux en raison de la pandémie.
And so people are feeling disconnected and sort of wondering where to start actually to rebuild those connections. And what we know for women is that we feel women really bore the burden of the pandemic, working, often caregiving, whether that was supporting children or other caring responsibilities. And we feel that perhaps women just haven't had enough time to look after themselves.
La Chine a accusé les États-Unis de démagogie à la suite de la décision de l'administration Biden de boycotter diplomatiquement les prochains JO d'hiver qui se tiendront à Pékin. L'envoi de délégations de haut niveau à chaque JO est depuis longtemps une tradition parmi les États-Unis et d'autres pays occidentaux. L'attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé la décision, affirmant que les athlètes américains continueraient de participer avec le plein soutien de leur pays.
The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses. The athletes on Team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home. We will not be contributing to the fanfare of the games.
Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 37 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 16. Hobart, 17. Canberra, 25. Sydney, 26. Brisbane, 29. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 7 décembre. Les enseignants de Nouvelle-Galles du Sud en grève ce mardi. La peine de prison de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi est réduite de moitié. Et en sport, les États-Unis confirment un boycott diplomatique des JO d'hiver de 2022 à Pékin. Fin du journal et dans quelques instants, le magazine des sports présenté par Marianne Murat.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.